Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Qu'on le veuille ou non, il y a eu un avant et un après Docker. Même si Docker aujourd'hui est en perte de vitesse, les conteneurs nous apportent finalement un outil en plus pour gérer nos applications. Avant, on avait les serveurs, les VM, etc. Et aujourd'hui, on a les conteneurs. Mais est-ce qu'on peut se contenter ? Mais dès que l'on ne peut plus se contenter d'un seul serveur et que l'on veut passer à la haute disponibilité, il faut utiliser ce qu'on appelle des orchestrateurs de conteneurs. Alors, qu'est-ce que c'est ? À quoi ça sert ? Et est-ce qu'on peut se passer de Kubernetes ? Voilà ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce podcast.
Bienvenue sur Radio DevOps, la balado-diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti !
Bonjour à toi cher compagnon et bienvenue dans ce 20e numéro de Radio DevOps, ton émission où on traite d'un sujet particulier. Et aujourd'hui c'est Kubernetes, les orchestrateurs de conteneurs. Est-ce qu'on peut faire sans Kubernetes comme tu l'as vu avec l'introduction ? Je te rappelle que tu peux t'abonner au podcast ou à la chaîne YouTube pour être notifié à chaque fois qu'on sort un podcast et sur la chaîne YouTube à chaque fois que je sors une vidéo. Petit disclaimer, dans cet épisode de podcast, on ne va parler que des conteneurs et on va parler que des orchestrateurs de conteneurs et pas des conteneurs. Et surtout, les conteneurs ne sont pas des machines virtuelles. Attention, on va définir un tout petit peu ce que c'est les conteneurs juste avant de commencer. Et on va se focaliser sur les solutions libres que l'on peut opérer nous-mêmes, pas sur les services en ligne qui sont basés sur les orchestrateurs de conteneurs, parce que sinon ce serait vraiment trop long. Et pour en parler avec moi aujourd'hui, j'ai Nicolas.
Bonsoir à tous.
Bonjour Nicolas. J'ai aussi René. Bonjour René.
Bonjour Christophe.
Et enfin j'ai Mathieu. Bonjour Mathieu.
Bonjour.
Et je pense qu'on peut commencer avant de définir tout ça. Non, on le fera juste après la définition. On va d'abord commencer par définir ce qu'est un conteneur. Et Nicolas, je crois que tu as une petite introduction à faire là-dessus.
Ouais, en fait, beaucoup parlent de conteneurs. Et pour faire très très simple, en gros, c'est juste le processus d'une application. Par exemple, le processus Tomcat, le processus Ruby qui va faire tourner toute l'application, et la même chose pour tous les langages. Et si vous commencez à avoir deux process dans le même contexte, on va sortir du modèle conteneur. Donc voilà, c'est juste un seul process pour faire tourner notre service dans un conteneur.
Je peux préciser aussi que ça a été apporté pour pouvoir isoler les processus entre eux sur une même machine. Et donc, on va arriver à l'orchestration de conteneurs. Finalement, c'est quoi une orchestration de conteneurs ? Qui est-ce qui veut se lancer dans cette définition ?
Je peux me lancer. Un orchestrateur de conteneurs, c'est un composant qui va être là pour démarrer des conteneurs, les redémarrer s'ils tombent ou si on perd un nœud à un autre endroit, les placer sur des nœuds en fonction de contraintes particulières. Bref, en fait, c'est un outil qui va gérer le cycle de vie de notre conteneur. La création, la suppression, le scaling, etc., etc., voire beaucoup de choses en plus selon les orchestrateurs, mais on aura le temps d'en parler un peu plus tard.
Justement, puisqu'on parle d'orchestrateur de conteneurs, il est peut-être bon de dire à notre auditeur finalement c'est quoi notre expérience avec les orchestrateurs de conteneurs et avec les conteneurs, pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui tous les quatre et quel retour on a. Brièvement finalement, c'est quoi votre expérience avec les orchestrateurs de conteneurs ? On va commencer par René.
Ah, ça tombe mal. Je suis quand même un petit peu cette actualité-là. Je suis, de mon point de vue, alors après je suis peut-être un peu exigeant, pas un gros spécialiste de Kubernetes, parce que pour le moment, j'ai pas eu à le pratiquer au jour le jour. Voilà. Après, j'ai fait pas mal dans le passé une autre solution, Swarm. Donc, voilà, je connais les concepts, etc. Mais je pense que ici, vous êtes tous beaucoup plus familiarisés que moi, je pense, dans l'usage au jour le jour de Kubernetes. Voilà.
Nicolas?
Alors moi, j'ai connu les conteneurs avec l'arrivée de Docker et quelques trucs un petit peu avant, comme LXC et ainsi de suite. Dès le début, beaucoup se sont précipités avec du Docker en production. À l'époque, je disais encore que c'était pas mature pour de la production. Maintenant, je pense qu'on peut dire que c'est mature pour de la production. On a énormément de problèmes qui sont arrivés avec et on va parler de ce sujet-là aujourd'hui puisque les orchestrateurs sont justement là pour régler tous ces problèmes-là. Et donc, effectivement, j'ai fait du Docker Swarm, j'ai fait du Docker tout seul, orchestré à la main avec des petits scripts sur les serveurs. Et quand j'ai vu Nomad arriver, j'ai trouvé que c'était une excellente alternative. Donc, on en parlera plus en détail tout à l'heure. Mais pour vous donner un contexte, je l'utilise assez massivement donc dans mon statut de freelance pour mes clients, mais aussi dans ma société qui m'emploie aujourd'hui, qui est Squarescale. Et en fait, on développe une solution qui déploie massivement des infrastructures en trois clics pour schématiser, avec notamment du Nomad, pour pouvoir déployer les conteneurs assez facilement.
Et Mathieu, toi, ton retour ?
Alors, moi, j'ai commencé à travailler avec les conteneurs, avec l'apparition de Docker également. Sur l'orchestration, j'ai travaillé un peu avec Mesos Marathon en 2015. J'ai découvert Kubernetes en 2017, et où j'ai travaillé au déploiement de clusters, notamment avec Ansible à l'époque. Et j'utilise Kubernetes maintenant depuis 3 ans et demi en production. Et c'est également mon équipe, donc je travaille chez un cloud provider, c'est mon équipe qui a monté l'offre Kubernetes as a service de l'entreprise. Donc moi, mon expertise sur l'orchestration, c'est surtout Kubernetes depuis maintenant assez longtemps.
Et moi, j'ai commencé à entendre parler de Docker à sa sortie. J'ai trouvé ça génial. Je me disais, ah, pouvoir isoler des process, c'est quand même pas mal. Surtout qu'à l'époque, j'étais en train de me poser des questions là-dessus. Je ne connaissais pas les conteneurs avant, en fait, pour tout vous dire. Et donc, du coup, ça m'a ouvert un petit peu là-dessus. J'ai beaucoup joué avec et j'ai découvert l'orchestration de conteneurs en 2016-2017 à un événement Red Hat, puisque moi, je suis rentré à travers les orchestrateurs avec OpenShift. Donc je suis venu à Kubernetes avec OpenShift, et peut-être qu'on pourra en parler. Et du coup, j'ai opéré une plateforme OpenShift en production depuis lors. J'ai déployé aussi sur OpenShift, et aujourd'hui, je fais du Kubernetes parce que OpenShift ne suivait pas forcément assez rapidement, en tout cas la version libre ne suivait pas assez rapidement Kubernetes et OpenShift sous licence. Et donc, on va pouvoir parler de à quoi ça sert finalement un orchestrateur, parce que bon, ça reste un petit peu obscur, je pense, pour nos auditeurs et auditrices. Et on va peut-être parler tout de suite de quel problème on va résoudre avec un orchestrateur et pourquoi finalement on est venu à utiliser ou à créer des orchestrateurs. Qui veut se lancer, donner des bonnes idées là-dessus, de pourquoi on en est là?
Je peux commencer sur le fait de pouvoir déclarer quels sont les conteneurs qui vont tourner, puisque avec les conteneurs est arrivée une deuxième mode, c'est les microservices. Et finalement, toute la philosophie DevOps qui arrivait avec, où j'ai envie de faire un git push et j'ai envie que toute mon infra se déploie de manière automatique. Tous mes conteneurs vont se pousser en production ou se mettre à jour, et toute mon application va se gérer entre guillemets toute seule. Alors c'est un petit peu simpliste de dire ça comme ça, mais globalement c'est à peu près ce qu'on a envie de faire. Et finalement, quand on avait une galaxie assez complète de microservices, c'était aussi complexe de gérer toute cette galaxie, parce que tout le monde sait faire un Docker run, mais le faire à chaque mise à jour, c'est pénible. Et comme le disait Mathieu tout à l'heure, on a aussi envie que tout se gère de manière automatique. On en reparlera un petit peu plus tout à l'heure quand on parlera de tolérance de panne et ainsi de suite. Et il y a un autre aspect qui est vraiment intéressant, c'est le côté déclaratif. C'est on a envie d'avoir un fichier qui va décrire de manière assez complète. Je veux tel conteneur qui va dialoguer avec tel autre conteneur, qui va avoir telle variable d'environnement et ainsi de suite. Et j'ai un fichier qui déclare tout et je pousse ça dans mon orchestrateur et tout se fait automagiquement.
Mais si je peux me permettre, tout ça, on pouvait le faire avec Docker Compose, puisque dans un Docker Compose, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un fichier dans lequel on décrit nos services et dans lequel on pouvait mettre bah, tel conteneur, il va faire tourner ça, tel conteneur, il va faire tourner ça, ils sont liés comme ça. Et ça tourne sur une seule machine, finalement. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de ça avec un orchestrateur ? Un Docker Compose, c'est très facile, on l'installe, pouf, on lance.
Oui, Docker Compose répondait à la problématique qui a été décrite par Nicolas de pouvoir faire tourner tous les processus liés à tous les containers qui tournent les processus d'une application. Par contre, bah, manifestement, voilà, c'est ce que tu dis, c'est scotché à une machine, une adhérence forte à une machine. Du coup, bah, si la machine a un problème, il n'y avait pas la notion de qui est ce qu'on recherche, de haute disponibilité pour garder nos applications vivantes. Et voilà, donc les containers apportent tout un ensemble de solutions pour gérer la haute dispo.
Donc ce que tu veux dire, c'est finalement, si le serveur tombe, nos containers, il fallait une solution pour les envoyer sur un autre serveur.
Oui, c'est ça, faut les redémarrer, entre guillemets. Aujourd'hui, ce qui est fait, c'est qu'ils vont être redémarrés sur un autre membre du cluster, s'il y a plusieurs membres.
J'ajouterai également deux choses. C'est très bien pour des microservices, mais même sur des infrastructures orientées services classiques, c'est-à-dire pas du microservice, mais juste quelques services, on va dire un découpage assez simple, ça a un intérêt. Et l'intérêt également, c'est, Nicolas a parlé de manière déclarative de déclarer son infrastructure, c'est que ça permet d'avoir une manière, un format commun, quel que soit le langage utilisé finalement, que ce soit du Java, du Python, le type d'application ou de process pour décrire son infrastructure. Décrire son infrastructure, ça va être décrire ce qu'on veut comme stockage, ce qu'on veut exposer comme port, ce qu'on veut comme ressource, ou des choses plus évoluées avec du load balancing ou autre. Il y a aussi ça, c'est vraiment ce langage commun qu'apporte un orchestrateur où toutes les applications seront sous le même format et on saura finalement à quoi s'attendre, quelle que soit la stack utilisée derrière.
Puis il y a un autre aspect pour ajouter, donc il y a l'aspect effectivement haute dispo, mais aussi avec Docker Compose, on est limité à une machine. On peut faire scaler des containers, c'est-à-dire en lancer plusieurs, mais bah, forcément ça reste sur la même machine. Du coup, l'orchestrateur, on va pouvoir faire scaler par exemple des frontales web, et donc l'outil va se débrouiller à nous les placer sur les ressources disponibles. Donc on peut aller très loin si on a beaucoup de serveurs, il va nous démarrer X containers par serveur jusqu'à ce qu'il ne puisse plus. Voilà, et donc accepter des charges très variables.
Alors du coup, il y a aussi un truc, c'est quand on utilise Docker Compose sur une machine, si finalement notre stack, elle tient pas sur une seule machine mais sur plusieurs, même si on veut pas de la haute dispo, Docker Compose est vite limité parce qu'il va falloir faire communiquer les conteneurs entre eux. Imaginons qu'on ait plein de microservices qu'on ne veut pas de l'eau dispo, donc on n'a pas forcément besoin de 4, 5, 10 serveurs, même si on n'en a besoin que de 2. Docker Compose, il est un peu limité là-dessus, et du coup, il faut faire communiquer tous ces conteneurs et s'assurer que le réseau soit sécurisé, et donc c'est probablement là que l'orchestrateur de conteneurs y fait aussi son apparition, si on veut éviter le côté haute dispo. En fait, si je résume, c'est dès qu'on sort du monoserveur, il nous faut un orchestrateur de conteneurs, quelle que soit la réponse qu'on veut adresser.
Oui et non.
En fait, l'orchestrateur, c'est le chef d'orchestre un petit peu de tout ça, où finalement, on a plein de petits composants qui viennent autour du conteneur, et il faut orchestrer tout ça pour que tout puisse fonctionner ensemble.
Je rajoutais juste rapidement que c'est possible de se passer d'orchestrateur si par exemple on déploie des conteneurs sur des machines virtuelles classiques, mettons 3 conteneurs d'une même application. S'il y a une machine qui tombe, bah, on n'en aura plus que 2, mais peut-être que c'est pas grave, peut-être que ça peut attendre jusqu'au lendemain matin que quelqu'un redémarre une machine, etc. Mais aujourd'hui, comme on l'a dit, il y a de plus en plus de services, de plus en plus de composants, on va dire, d'applications qui tournent, etc. etc. Et donc, ça, les orchestrateurs fournissent une interface commune.
Oui, et puis les orchestrateurs, ils fournissent des services que tu n'as pas avec ton pauvre petit Docker Compose et que tu dois forcément faire toi à la main, j'imagine.
Exactement. Alors ça, ça dépend des orchestrateurs. Ça, c'est aussi le gros débat de ce podcast. Certains vont faire beaucoup de choses. Peut-être que d'autres vont faire moins. Mais peut-être que c'est bien de faire moins. Peut-être essayer de tout faire. Peut-être que ce n'est pas une bonne idée au final. Enfin bref, c'est toujours un équilibre à trouver. Mais on va en discuter, je pense.
Il y a peut-être juste un autre aspect intéressant, c'est que souvent la répartition, bah, elle est faite quand même par logiciel. Et donc, les outils sont quand même bien faits pour essayer d'optimiser au maximum les ressources disponibles sur le cluster. Plus que ce qu'on pourrait probablement faire avec des méthodes plus traditionnelles, on va dire, sans orchestrateur.
Oui, notre orchestrateur, comme disait Nicolas, c'est vraiment le chef d'orchestre qui va dire toi, ce conteneur-là, tu vas aller sur cette machine, toi, tu vas aller là parce qu'elle est moins chargée, toi, tu vas aller là. Ah, ben, il y a cette machine qui tombe, attends, ben, je vais aller lancer ces conteneurs à droite, à gauche. C'est vraiment ça son travail son travail premier, en fait. Il y a d'autres trucs, en effet, il y a d'autres services, mais on en parlera.
Et alors, comment... Je voulais juste dire qu'il y avait des fois plus ou moins d'intelligence dans les orchestrateurs, on va dire ça.
Exactement. Alors, il y a l'un de vous, a laissé une note que j'ai du mal à comprendre. On parle de convergence de l'état du monde.
C'est moi.
Ça, je pense, c'est comment est-ce que les orchestrateurs y font ? Vas-y, alors Mathieu, parle-nous de ça, la convergence de l'état du monde.
Il faut savoir que, comme j'ai dit, je travaille chez un cloud, et en fait, sans parler de conteneurs, on écrit des orchestrateurs pour tous nos produits. Et c'est toujours le même principe, et ça ressemble aussi à ce que font des orchestrateurs de conteneurs. C'est qu'on va déclarer ce qu'on veut, finalement, quelque part, à une API, notamment. Ça peut être l'API, on va parler de Kubernetes par exemple, l'API de Kubernetes aussi d'autres orchestrateurs. On va dire je veux ça, je veux tel conteneur donc qui utilise telle image avec qui doit utiliser telle ressource en CPU et en RAM. Je veux par exemple 4, 5 ou 6 instances de ce conteneur. Bref, on décrit ce qu'on veut finalement et l'orchestrateur va être là pour faire converger l'infrastructure vers cet état voulu finalement. Il va dire, ah bah tiens, là, j'en ai 0 des réplicas pour ce conteneur, bah, je vais en créer 5. Et si on perd un nœud, il va détecter ça et dire, ah bah j'en ai plus que 4, il faut que j'en recrée un nouveau, donc sur un autre nœud. Donc voilà, c'est vraiment ça, quand je parle de boucle de réconciliation dans ma note, c'est on va toujours vérifier l'état du monde, vérifier que finalement l'infrastructure qui existe vraiment, qu'on a déployée, le nombre de conteneurs et leurs caractéristiques, correspond à ce que nous, utilisateurs, avons déclaré à l'orchestrateur. C'est vraiment ça le fonctionnement d'un orchestrateur, c'est je déclare ce que je veux, et ensuite c'est des logiciels qui vont travailler pour faire converger l'état du cluster, donc je dis l'état du monde ici, dans l'état voulu, dans l'état qu'on veut, et faire en sorte que cet état soit toujours maintenu. C'est le plus important.
Du coup, on en revient un petit peu à cette notion d'infrastructure as code, qu'on a déjà un peu abordé dans un autre épisode. C'est on va décrire notre infrastructure, et là, c'est une infrastructure à base de conteneurs, mais ça pourrait être, comme tu dis, une infrastructure autre, à base de VM, etc.
Exactement.
Et donc, j'ai l'impression que l'API est un nœud central, non, dans les orchestrateurs.
Oui. Pour moi, c'est travailler via une API, c'est quasiment obligatoire aujourd'hui. C'est vraiment un point central, le fait d'avoir une API sur laquelle on peut interagir pour déclarer son infrastructure.
Comment est-ce que les orchestrateurs continuent à faire ça? Et on a vu un standard qui a émergé finalement depuis quelques années, le Container Network Interface, le CNI de son petit nom. Nicolas, tu veux nous en dire un peu plus?
Ouais, alors en fait, il y a eu une problématique qui est arrivée assez rapidement, c'est la gestion des réseaux. Donc, on a parlé tout à l'heure des conteneurs qui devaient pouvoir interagir les uns avec les autres. L'idée des conteneurs, c'est aussi de les cloisonner dans des environnements totalement à part pour que mon conteneur A ne puisse pas dialoguer avec mon conteneur B qui est sur un autre projet. Et pour pouvoir faire ça, il faut mettre les bons câbles entre les conteneurs. Et comme on a tout virtualisé, il a fallu aussi virtualiser le réseau à un moment donné. Et en fait, on a énormément de solutions au niveau réseau. Donc, on peut partir sur des trucs entre guillemets simple, c'est des réseaux virtuels, donc c'est les overlay network de Docker par exemple. Il y a des overlay network chez d'autres constructeurs, donc on a du Calico, on a du Wave, etc. Et puis on a aussi des virtualisations de réseaux qui existaient il y a très longtemps, hein, c'est les VLAN. Et finalement, si on a déjà un réseau physique existant et la possibilité d'avoir accès aux VLAN, bah, pourquoi s'en priver? Et finalement, c'est Kubernetes et tout son écosystème qui a ramené ça. Et donc, c'est les standards comme CNI. Donc, CNI, c'est quoi? C'est il y a deux parties. Il y a la partie, c'est à la fois un protocole de déclaration qui va dire je veux créer un réseau, je veux lister mes réseaux, je veux supprimer mon réseau, je veux attacher un conteneur sur tel réseau, et ainsi de suite. Et à la fois des binaires, donc un binaire pour configurer un réseau, donc tous les réseaux que j'ai cités précédemment, les overlay networks, les VLAN et ainsi de suite, pour différents composants. Et ce qu'il y a de vraiment intéressant dans ce standard, c'est que c'est arrivé avec la communauté Kubernetes, mais n'importe qui peut utiliser ce plugin-là. Et là, on parle de CNI, mais il y a son pendant qui est CSI pour la partie stockage. Et ce qu'il y a d'intéressant dans ces deux composants-là, c'est que ça va aussi être la possibilité d'utiliser des fournisseurs spécifiques à un provider. Par exemple, pour la partie stockage, on peut avoir accès au stockage AWS, donc du mode bloc ou du mode plus NFS. Et sur les réseaux, alors j'ai pas trop creusé la partie réseau, mais j'imagine qu'on doit pouvoir avoir accès à des réseaux privés un petit peu spécifiques côté différents fournisseurs IaaS. Donc j'imagine qu'on doit pouvoir connecter des conteneurs directement à des VPN via ces protocoles CNI. Après, peut-être que Mathieu a un petit peu plus d'expérience que moi sur la partie réseau.
Alors, en effet, certains cloud providers fournissent leur propre plugin CNI qui permet de s'interfacer avec leur réseau, leur solution finalement de réseau privé. Après, comme tu l'as dit, il y a des tonnes d'outils et de solutions via des routes juste ajoutées aux machines, jusqu'au VXLAN, etc. Ça va être aux utilisateurs de faire des choix, mais en effet, il y a aussi des solutions, on va dire, spécifiques à certains cloud providers qu'il est possible d'utiliser. Ou de remplacer d'ailleurs. On n'est pas forcé d'utiliser la solution du cloud provider, on peut utiliser Cilium ou Calico ou autre, par exemple dans Kubernetes, si on le veut. Parce que ça reste un standard, donc on peut enlever le composant et en mettre un autre à la place.
En fait, je pense que c'est une des forces de Kubernetes, c'est que il est très modulaire, donc toute cette notion de plugin et de définition de standard permet d'avoir une abstraction où on peut parler globalement de la même manière à tout le monde, et puis derrière, entre guillemets, c'est un peu comme c'est limite un driver, quoi, ça va faire les bonnes interactions avec le matos qu'il y a derrière. Enfin, il me semble, dites-moi si je dis pas de bêtises.
Pour moi, c'est ça.
Là, je viens de regarder vite fait, il y en a à peu près 27, peut-être un petit peu plus dans ceux qui sont référencés, et ça va de des fournisseurs IaaS comme Amazon Azure et aussi des fournisseurs comme VMware qui sont des alternatives aux cloud providers, mais il y a aussi du Juniper pour ceux qui ont du matos entre guillemets un petit peu plus propriétaire. Et du coup, ça ouvre des perspectives super intéressantes pour ceux qui veulent opérer eux-mêmes des trucs plus ou moins exotiques, mais qui vont s'intégrer dans un autre écosystème, que ça soit dans du cloud ou en on-premise, parce que c'est aussi un truc qu'il faut pas oublier, c'est qu'il y a encore des gens qui veulent pouvoir avoir des fonctionnalités similaires au cloud, mais dans leur propre data center, dans leur propre infrastructure.
Ben justement, puisqu'on parle de ça, on peut parler des solutions d'orchestrateurs qu'on peut installer dans nos propres data centers. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, évidemment, on va évacuer tout de suite Kubernetes. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Kubernetes, en fait, c'est sorti en 2015. Donc, la version 1 est officiellement sortie en juillet 2015, le 21 pour être exact. C'est un projet qui a été libéré par Google. Et en fait, c'est un projet qui est inspiré d'un autre projet interne à Google qui s'appelait le projet Borg. Le nom interne en fait du projet chez Google avant que ce soit libéré, c'était pas Kubernetes, c'était le projet Seven. Et le projet Seven faisait référence à un personnage de Star Trek qui est un Borg devenu amical. On peut se poser la question de pourquoi Google a choisi ça. Peut-être que Borg était pas si amical que ça à l'époque. Et donc, pour la petite anecdote, les 7 rayons que vous voyez sur le logo de Kubernetes, donc Kubernetes c'est un terme grec qui désigne un gouvernail, donc pour ceux qui n'ont jamais vu le logo de Kubernetes, c'est un gouvernail à 7 branches, à 7 rayons, et il y a 7 rayons justement en référence avec Seven pour ce nom original. Donc Kubernetes, qu'est-ce que c'est? Pourquoi on en entend autant parler et pourquoi est-ce que tout le monde l'utilise presque? Je vous lance la patate chaude.
Bah, c'est l'orchestrateur qui a eu la plus grosse croissance, où les gens ont le plus adhéré, la plus grosse communauté, et c'est devenu quasiment un standard de facto en fait. Après, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, hein, ça c'est chacun jugera, mais voilà, il y a eu un engouement vraiment fort. Il y a eu un engouement fort aussi parce que je pense que c'était propulsé par Google. Les gens je pense qu'il y a eu un effort très important de Google pour à la fois développer le produit, mais aussi beaucoup faire de marketing autour. Et voilà, c'est devenu un petit peu la solution dont tout le monde parle, et avec un écosystème qui n'a rien à envier à celui de JavaScript. C'est un vrai boxon, il y a plein de projets dans tous les sens, mais du coup, c'est extrêmement vivant. Et puis, ben voilà, je pense que ça correspondait aussi un peu avec les microservices. Ça répond malgré tout quand même à un certain nombre de problématiques. Donc, ça explique le succès. Parfois, au détriment peut-être, à mon regret, d'autres solutions qui... Ça a un peu éclipsé d'autres solutions qui étaient peut-être pas si mal aussi. Mais bon, ça, c'est la vie.
Ouais, justement, on parlera d'autres solutions, on va dire. On parlera des autres solutions un petit peu après. On n'abordera pas celles qui sont abandonnées. Pour certaines, parce qu'il y en a certaines qui sont vraiment abandonnées. Vas-y, Nicolas.
Ouais, ce que j'allais dire, je ne vais pas m'étendre trop longuement sur Kubernetes, parce que je ne le connais pas aussi bien que vous, mais le peu que j'en ai vu, ça ne m'a pas vraiment donné envie de creuser. Mon côté parano me dit que c'est peut-être un plan machiavélique de Google pour plomber ses concurrents en réalisant un truc open source qui est très difficile à opérer. Mais ça, c'est mon côté un petit peu maso, parano.
Alors, je dirais pas
tu,
ça.
Tu veux y aller tout de suite?
Bah, très rapidement, juste pour le côté parano et Google. Je pense qu'aujourd'hui, c'est difficile en tant que concurrent de Google, si on parle de l'aspect cloud, de se passer de Kubernetes. Parce que moi, je l'ai vu, hein, des clients qui débarquent, qui disent vous faites du cloud. Je parle même pas de IaaS, PaaS, IaaS, etc. Juste, vous faites du cloud? Oui, on fait du cloud. Vous faites du Kubernetes? Bah non, on fait pas Kubernetes. Ok, bah on viendra pas chez vous. C'est comme ça que ça se passe aujourd'hui en 2021. Voilà, il faut le savoir. Donc je pense que c'est important de le mentionner également.
Comme étant un acteur un petit peu concurrent, c'est un sujet que je connais très très bien, mais bah, c'est malheureusement la vie. Et moi, j'ai préféré être maso et choisir un des concurrents dont je parlerai peut-être un petit peu plus tout à l'heure.
Alors, je sais de quel concurrent tu vas parler, mais Kubernetes a aussi un avantage par rapport aux autres, c'est que historiquement, il est quand même arrivé pratiquement un tout petit peu après Docker, et ça fait beaucoup aussi. Et il a plein de désavantages, Kubernetes, mais il a plein d'avantages. Et justement, on pourrait citer, outre que le fait qu'il y ait des Kubernetes managés un peu de partout, hein, ce qui n'est pas le cas des autres distributions Kubernetes, on en parlera après, ou des autres solutions. Parce qu'en fait, dans un orchestrateur de conteneurs, on ne l'a pas dit, mais il y a deux grosses parties. Il y a la partie installation, maintenance, infrastructure, comment est-ce qu'on maintient l'orchestrateur, et la partie création des ressources dans l'orchestrateur, qui reste encore pour moi une partie ops, qui n'est pas encore aux développeurs. Parce que comment on fait communiquer les microservices, comment on les architecture, tout ça, c'est un autre métier par rapport à celui qui va installer l'orchestrateur. Ça fait déjà deux bons gros métiers d'ops. Finalement, notre métier n'est pas prêt de partir. Mais il y a encore pas mal d'avantages. Mais je vais vous laisser en citer quelques-uns des avantages, parce que je sens que Nicolas et René ont un petit peu envie de troller. Et puis Mathieu, je suis sûr que tu en vois plein. Et après, on parlera des problèmes, parce qu'il y en a plein aussi.
Non, pourquoi troller? Ben, je pense qu'on a déjà vu un des aspects, c'est l'aspect vraiment modulaire de la solution, plugin, etc. Donc ça s'adapte à plein de fournisseurs de stockage, plein de types de réseaux, etc. À l'origine, d'ailleurs, c'était quand même assez pauvre. Hein. Il fallait ça gérer que des réseaux à plat, si je dis pas de bêtises. Et du coup, les besoins, enfin, voilà, il fallait faire quand même des choses un peu sérieuses niveau sécurité réseau pour isoler certains containers, d'où cette volonté d'avoir des nouvelles solutions et d'avoir standardiser ce qu'on a vu tout à l'heure, le CNI, etc. D'autres avantages, ben, on l'a dit, c'est du descriptif hein, quand même, ça c'est quand même plutôt cool. Donc du coup, ça veut dire que les développeurs, s'ils peuvent décrire leur stack et logiquement utiliser Kubernetes pour déployer toute leur application, donc ça c'est quand même un gros avantage. Voilà, je pense qu'il y en a certainement d'autres, mais je vais passer la main.
Ouais, je vais, en toute objectivité, je vais quand même sortir quelques avantages. Donc, ça a quand même établi une norme dans l'orchestration des conteneurs. Donc, malgré tout le mal qu'on peut penser des charts Helm, bah, y a au moins un standard sur ce côté-là. Ça, il y a tout l'écosystème qui vient autour, qui apporte quand même énormément à la gestion des conteneurs. Puisque tout à l'heure, on citait CNI, CSI, ça peut largement être utilisé par d'autres trucs. Et un autre gros avantage de Kubernetes, c'est que c'est un système Lego. Donc un autre projet similaire qui m'y fait souvent penser, c'est OpenStack. OpenStack, c'est on peut monter son propre IaaS. Bah là, on peut monter son propre orchestrateur de conteneurs. Et chaque composant peut être installé ou pas installé, mais aussi être remplacé par un autre. Alors, je connais pas suffisamment tout l'écosystème pour savoir à quel point quel composant peut être remplacé ou pas, mais en gros, pour gérer les certificats TLS à l'intérieur du système, si j'ai bien compris, il y a quelques alternatives qui peuvent être utilisées ou pas. Si on veut gérer du stockage, on peut mettre certains composants pour avoir du stockage distribué, du stockage MFMR et ainsi de suite. Et tous ces trucs-là, c'est un écosystème hyper vaste où on peut aller piocher à volonté en fonction de ses propres besoins.
Oui, alors justement, je vais approfondir un petit peu et je laisserai la parole à René après. Les deux composants qui, pour moi, sont essentiels au cœur de Kubernetes peuvent en effet être changés. On parlait tout à l'heure des CNI, donc de l'interface réseau. Donc, on peut choisir en fait notre interface réseau comme on veut. Et on peut choisir aussi notre runtime de conteneurs. Donc, comment est-ce que les conteneurs sont gérés? Et ça, c'est très intéressant parce que du coup, on n'est pas lié à Docker ou on n'est pas lié à CRI ou à Cryo, excusez-moi, à Cryo ou à d'autres. On peut vraiment choisir. Et le truc qui, pour moi, est le top du top en termes d'avantages, c'est les CRD, les Custom Resource Definition, qu'en gros, Kubernetes a une API, et on peut surcharger cette API et ajouter des points dans cette API, j'ai envie de dire, de manière assez facile. Et donc, ça fait que l'API est étendable à l'infini pour ce qu'on veut faire, et donc on peut faire des tonnes de choses. René, je te laisse la parole.
Non, je voulais juste ajouter, mais enfin après, c'est dans le préambule que tu as dit. Voilà, c'est que ça reste quand même aussi une solution libre. Donc, les sources sont disponibles, on peut aller creuser, on peut voir comment c'est fait. Donc ça, c'est aussi un avantage majeur et peut-être une raison du succès.
J'ajouterais deux choses. Pour très rapidement sur la standardisation, ça a aussi standardisé, bien sûr, les conteneurs, etc., les plugins CNI, CSI et autres, mais aussi la partie load balancing, la partie gestion des logs, gestion des métriques, et placement, on va dire, sur les nœuds, on va dire, de l'Affinity, Anti-Affinity, utilisation du GPU. Voilà, on peut faire des workloads GPU très facilement, enfin, même la gestion des ressources. Et comme tu disais, Christophe, il faut vraiment voir ça. Les CRD, c'est quelque chose de très intéressant de Kubernetes. C'est vraiment son point fort, je dirais, même si on pourra en reparler après, mais c'est peut-être aussi son point faible, c'est que c'est extensible à l'infini et c'est une grosse boîte à outils, en fait, Kubernetes. On peut définir une ressource et ensuite écrire un contrôleur qui va écouter cette ressource pour faire des actions. Et ça peut être n'importe quoi, ça peut être des choses qui ne sont même pas des conteneurs. Je pourrais créer très bien une ressource demain pour gérer, je sais pas moi, ce que vous voulez. Et derrière, écrire un contrôleur qui n'interagira même pas avec les nœuds, qui fera des choses complètement délirantes. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est vraiment pas que la partie conteneur Kubernetes, c'est vraiment l'écosystème autour la partie CRD et les intégrations. Voilà, on parlait de stockage, mais le load balancer avec, on crée un load balancer, on est sur un cloud, ça en crée, ben, ça utilise l'API du cloud provider pour le provisionner. Pareil pour les volumes, pareil pour les certificats, pareil pour plein de choses. C'est vraiment ça aussi sa force, c'est standardisation, mais aussi pouvoir l'étendre.
Ouais, moi je voulais juste ajouter quelque chose aussi, c'est peut-être au-delà un petit peu de la technique, c'est aussi, je pense qu'un des avantages de cette standardisation, c'est que ça apporte un socle commun entre les équipes de dev et les équipes d'ops, et donc du coup ça permet peut-être des fois de mieux se comprendre et de résoudre certaines difficultés. Voilà.
Je suis pas certain. Pour travailler avec des devs, c'est encore moi qui me tape l'intégralité des YAML de déploiement parce qu'ils connaissent pas Kubernetes, ils connaissent pas OpenShift.
Ouais, mais
selon moi, c'est quand même le travail d'un ops de pouvoir décrire l'infrastructure des microservices et comment est-ce qu'on les gère. Après, en effet, on peut les confier à des devs, il n'y a pas de problème, hein. Mais pour moi, ça devrait rester le travail d'un ops qui travaille avec des devs.
Je pense que ça permet peut-être de, ce que je voulais dire, c'est peut-être de mieux accompagner. Et quelque part, il y a, c'est évident hein, que c'est pas tout rose et que c'est pas facile, mais au moins, je pense que ça donne des éléments de langage commun et des choses qui permettent de mieux se comprendre, à mon avis.
Là où je suis d'accord avec toi, c'est en effet que comme on va versionner souvent la manière dont on va faire l'infrastructure dans peut-être les mêmes dépôts ou des dépôts frères. On va pouvoir parler avec les devs et les ops vont vraiment partager un langage commun, en effet.
Et potentiellement des méthodes communes, parce que les ops vont apprendre à versionner la partie DSL de l'infrastructure pour déployer les conteneurs, ce qu'ils ne faisaient pas forcément avant. Ils vont apprendre à automatiser. Et surtout, c'est suivant les organisations, ça va être de la partage du partage de responsabilités. Parce que si tout le monde peut éditer le fichier Helm qui va déployer l'infrastructure pour schématiser, on va partager la responsabilité. Et le jour où ça va pas marcher, c'est pas la faute des devs, c'est pas la faute des ops, c'est la faute de l'équipe. Et il va falloir que l'équipe fasse en sorte que ça soit à nouveau opérationnel et trouve des solutions pour que ça ne se reproduise pas, et ainsi de suite. Et pour moi, c'est peut-être un des meilleurs points positifs, c'est que ça va faire travailler toutes les équipes ensemble. Et comme tu le dis, Christophe, aujourd'hui, c'est encore toi qui fais les fichiers de description YAML des infrastructures, mais c'est peut-être un bien. Mais peut-être que les devs qui s'y intéressent vont aller regarder ce que tu as fait pour monter en compétences, et peut-être que pour le projet d'après, ils vont s'inspirer de ce que tu as fait pour la phase initiale du projet, et toi, tu arriveras à la fin pour vérifier si tout est bon et si c'est OK pour partir en prod.
J'aimerais bien, mais pour l'instant, c'est pas encore le cas. On va pouvoir parler des inconvénients, parce que Kubernetes, c'est pas un monde qui est tout rose, hein. C'est un monde qui est très très vaste, et on a de quoi se perdre dans un désert d'inconvénients. Je dis un désert parce qu'en effet, il y en a beaucoup. C'est un désert de sable, chaque inconvénient, c'est un petit grain de sable. Je vais vous laisser en citer quelques-uns, et puis moi, j'en citerai d'autres, probablement.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ah, Nicolas commence. Je sens que t'as envie.
En fait, je pensais vous laisser donner des inconvénients parce que je pense que je suis pas suffisamment objectif et j'ai pas suffisamment d'expérience dessus pour casser un petit peu du Kubernetes de manière objective.
Bah, ce qu'on lui reproche souvent, c'est quand même ça un outil très modulaire, donc forcément beaucoup de possibilités, qui apporte une certaine complexité. Donc voilà, c'est intrinsèquement, c'est quand même pas une si complexe. Il n'y a pas des milliers de services pour faire marcher Kubernetes, mais il y en a quand même quelques-uns. Il faut bien comprendre comment ils s'architecturent. C'est pas magique, c'est-à-dire qu'il faut quand même des gens pour l'opérer et le faire fonctionner. Ça, faut pas le négliger. C'est pas juste un truc qu'on installe et ça marche bien. Au début, alors je vais parler de mon expérience un petit peu, au début c'est vrai que la documentation elle donnait pas trop envie parce que juste pour l'installer il y avait 15 000 façons de faire, voilà c'était voilà, pas forcément facile, la documentation au début était aussi pas forcément génialissime, ça a beaucoup progressé pour le coup, voilà un petit peu les moi ce que je peux en dire, c'est pas un produit qui personnellement m'a donné trop envie au début. Et ben, par la force des choses, aujourd'hui, on est quand même obligé un petit peu de s'y intéresser et de rentrer dedans. Mais c'est vrai que de prime abord, c'est pas forcément l'outil le plus engageant, encore une fois, de mon point de vue.
Il y a un coût d'entrée, en effet. Il y a plein de composants. C'est un avantage parce que, comme tu sais, on peut les modifier. Mais c'est aussi un inconvénient parce qu'il faut les gérer. Et installer ces composants, c'est complexe. Bah, d'ailleurs, je renverrai aussi vers... Peut-être tu pourrais mettre le lien, Christophe, vers le talk que j'avais fait aux compagnons du DevOps sur les composants du cluster et sur la gestion du TLS, qui montrait également cette complexité d'installation qui n'était pas... c'est pas trivial, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a les offres cloud qui aident beaucoup, mais forcément, c'est pas possible on-premise. L'autre complexité, pour moi, elle est réseau. Donc déjà au niveau du contrôle plane, parce qu'il faut savoir que l'API serveur de Kubernetes, son composant central, parle à beaucoup de monde. Il va parler, l'API, enfin déjà il y a des contrôleurs, le contrôleur manager, le scheduler, des choses comme ça qui vont parler à l'API serveur. L'API serveur va elle-même parler à Kubelet, donc dans le sens API serveur à Kubelet, il faut que le trafic soit ouvert. Kubelet doit être capable, donc Kubelet c'est le, je vais peut-être préciser, c'est Kubelet c'est le ce qui tourne sur les nœuds Kubernetes, sur les workers. Kubelet doit également parler à l'API serveur. L'API serveur doit également être en mesure de communiquer avec le réseau interne du cluster via ce qui s'appelle l'aggregation layer. Donc, c'est-à-dire faire communiquer avec des pods qui tournent dans le réseau privé, comme on parlait tout à l'heure de CNI, etc. Donc, vraiment dans le réseau, dans l'overlay Kubernetes, ce qui amène l'utilisation de proxy ou de choses comme ça, dans certains cas, comme connectivity. Enfin bref, il y a une très grosse complexité réseau pour moi. Ça a été d'ailleurs le plus gros point de douleur, pour être honnête, pour implémenter une offre Kubernetes managée. Ça doit être, je pense pour moi, c'était la gestion du réseau. Entre les composants du cluster, mais aussi entre les nœuds, bon, voilà, quelqu'un qui n'a pas l'habitude de gérer des réseaux VXLAN ou des choses comme ça, c'est pas simple. Alors bien sûr, Calico ou autre vont le faire pour vous, mais quand ça plante, eh ben c'est pas simple. C'est compliqué, c'est quand même des problématiques complexes. Il faut garder ça en tête. C'est pas juste comme avant, on avait notre réseau privé sur le cloud, nos services systemd qui parlent entre eux, tout marche. Là, il y a des trucs dans tous les sens. Il y a de l'IPTable, de l'encapsulation, tout ce que vous voulez, des bridges sur les machines. Enfin bref, c'est complexe. Quand ça bug, c'est complexe.
Et puis, moi, j'ai l'impression qu'il y a un peu trois niveaux, quoi. Il y a le niveau où on installe ça et puis qui arrive un petit peu out of the box. Et voilà. Mais après, je pense qu'il y a vraiment deux marches importantes. La première marche, c'est vraiment faire les bonnes pratiques pour le sécuriser. Et là, il y a déjà, je pense, beaucoup de boulot. Et ensuite, il y a une marche qu'on veut, comme vous, lui mettre en, enfin, comme Mathieu, dans son entreprise, de mettre en production en public utilisable. Là, je pense que le tourner vraiment en prod, Internet fixing et tout, là, je pense que ouais, ça demande une somme de connaissances qui est colossale.
C'est ce que j'allais dire, en fait, pour l'avoir fait pratiquement seul, c'est ultra dur d'apprendre Kubernetes. La courbe d'apprentissage, elle est énorme. Enfin, moi, j'avais l'impression d'être devant l'Everest à chaque fois que je regardais mes docs OpenShift. C'était pas Kubernetes, mais c'était OpenShift, c'est pareil. Hein. Je me voyais là et je me disais, putain, mais ça va pas avancer, et ça va pas avancer. Et à chaque fois que j'installais des trucs, c'est, ah là là, il y a encore ça à faire, il y a encore ça à faire, il y a encore ça à faire. Et on parle, et encore, quand on a réussi à l'installer, Kubernetes, il faut le gérer. Faut gérer les disques, faut gérer... parce que tous ces objets-là dont on parle, ils génèrent des... comment dire, des traces, des fichiers, etc. Et donc, il faut purger ce genre de choses, il faut faire attention. Et ça, ce n'est pas fourni par Kubernetes, il faut y aller, il faut gratter et tout. Il y a plein de trucs. Comme dit Mathieu, c'est la boîte de Pandore. On l'ouvre et ça y est, il y a tout qui sort. Et on tire un bout et on se dit, ah, c'est la fin, mais non, il y en a encore. Pour moi, c'est ça le gros problème, c'est Kubernetes, c'est trop compliqué. Il apporte plein d'avantages, mais c'est trop compliqué. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire plus simple? Bon sang.
Alors ça, bonne question.
Ouais. Ouais,
voilà, l'autre. Quand même, la problématique auquel ça répond n'est pas forcément simple. Pour avoir vécu un petit peu, on parlait d'Open, enfin Nicolas évoquait OpenStack, le projet Neutron d'OpenStack qui gère la partie réseau, c'est un truc de malade aussi. Je pense que ça adresse des problématiques vraiment difficiles. Ça engendre et en plus le fait de vouloir faire des plugins soit modulaires pour s'adapter à beaucoup de monde, ça multiplie un petit peu cette sensation-là, quoi.
C'est exactement ça.
Exactement. Tu allais dire, pour moi, Kubernetes, c'est comme si tu installais un cloud chez toi, sauf que tu te bases sur des conteneurs et autres, mais c'est aussi compliqué que gérer finalement un data center. Enfin, pas aussi compliqué, mais le niveau de complexité est quand même assez élevé,
et
je trouve.
René a dit quelque chose de très intéressant. C'est modulable, Kubernetes, et ça veut s'adapter à tout le monde. Et c'est pour ça que c'est complexe. Et c'est pareil pour OpenStack. C'est des solutions où il faut que ça marche dans tous les contextes, cloud, on-premise, avec tous les composants, réseau que vous voulez, tous les trucs de storage, de load balancer, de tout ce que vous avez imaginé, tous les protocoles réseau, blablabla. Et au final, ça complexifie les choses. Et c'est vrai que des fois, des gens vont dire « Non, mais nous, on a écrit notre propre solution pour remplacer Kubernetes, c'est beaucoup plus simple. » Oui, parce qu'ils avaient un besoin très, très, très précis, très limité. Alors que là, on est sur un outil qui va essayer de s'adapter à la masse, c'est-à-dire à tous les besoins de tout le monde. Et c'est ça qui va complexifier énormément le code. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec des projets avec je ne sais pas combien de millions de lignes de code, etc., etc. Parce que ça veut tout faire pour tout le monde.
D'ailleurs, on peut aussi évoquer rapidement les alternatives à Kubernetes comme K3S, qui sont des réimplémentations un petit peu plus simples et plus faciles à déployer et à maintenir, mais avec un spectre de fonctionnalités beaucoup plus réduit.
Ouais, mais justement, on parlera juste des distributions après. J'aimerais qu'on finisse sur les inconvénients et on passera juste aux distributions juste après. Pour moi, comme il y a plein de trucs à gérer, évidemment, il y a plein d'outils qui viennent. Dès qu'on a sorti Kubernetes, qu'on l'a installé, pof, on se pose des questions. C'est « Ah, mais nos images, comment on va les déployer ?» Donc, je vais utiliser un outil GitOps qui va me permettre de déployer les images. Comment est-ce que je vais gérer mes upgrades, mes mises à jour ? Comment est-ce que je vais récupérer mes métriques? Comment est-ce que je vais centraliser les logs? Parce que, évidemment, chaque pod, donc chaque entité qui tourne dans Kubernetes a des logs, mais elles ne sont pas toutes agrégées. Donc, toutes ces questions-là qui ne sont pas adressées par Kubernetes de base, il faut installer des outils en plus dans notre agrégat Kubernetes. Et donc, pour moi, ça apporte des complexités en plus. Et à chaque fois, je peste en me disant, mais pourquoi il n'y a pas des packages d'outils qu'on pourrait installer d'un coup? Bon, on a fini par en trouver quelques-uns, mais c'est dur quand même. C'est pas quand on va sur les docs de Kubernetes, on n'est pas aidé là-dessus.
On n'est pas aidé.
Encore continuer si vous voulez. Vas-y, René.
Alors moi, ce que je voulais dire, c'est que ce que j'aime pas trop dans la solution, on l'a dit, elle couvre beaucoup de choses, et j'ai toujours cette sensation, pour en avoir fait un petit peu quand même, je sais pas si ce que j'ai fait est vraiment bien en fait. Je sais pas comment dire. C'est tellement foisonnant, il y a tellement de possibilités que en fait, on se demande si ce qu'on a mis en place c'est ce qu'il vraiment il fallait faire. Moi, c'est ça qui me dérange un petit peu.
Moi, de toute façon, je recommande à des gens qui commencent à Kubernetes de rester sur des trucs simples, pas de CRD, utiliser des trucs standards, deployment, service, ingress, voilà. Déjà, utiliser ça. Pas complexifier les clusters avec des trucs un peu bizarres, un peu louches. Parce que c'est vrai que, Christophe l'a dit, mais on peut trouver des boîtes à outils toutes faites à déployer et ça marche, mais c'est des grosses boîtes noires. Je prends l'exemple de Cert Manager, c'est le standard pour gérer les certificats. Ça marche très bien, moi je l'utilise sur mon cluster, on l'utilise avec Less Encrypt, on l'utilise nous en interne avec Vault. Ça marche, mais par contre, bon, c'est un manifeste, on va chercher le manifeste, il fait 13 000 lignes, je crois, d'YAML, le quick start, un truc comme ça. En gros, on fait un kubectl apply, enfin, c'est mieux géré que ça, mais moi, sur mon infra perso, je fais un kubectl apply, et puis on va espérer que ça marche, quoi. Et c'est vrai que beaucoup de grosses boîtes à outils Kubernetes fonctionnent comme ça, on se retrouve avec 5 000, 10 000, 15 000, 20 000 lignes de YAML, personne, en dehors du mainteneur de l'outil, va aller dedans, enfin il faut, hein. On y va quand même, bien sûr, surtout quand on offre du Kubernetes service, des choses comme ça, mais je veux dire, la majorité des gens doivent faire confiance, hein, au bout d'un moment, à celui qui fournit l'outil, mais le jour où il y a un problème, et ben après, qu'est-ce qu'on fait? C'est un peu le problème de ces outils-là, de ces grosses boîtes noires.
Ouais, c'est le côté magique qui est un peu, effectivement, ça, quand tout, quand la magie opère, c'est génial. Quand ça, il y a un couac, là, ça devient vite horreur pour débugger, en fait.
Et du coup, comme il y a beaucoup d'outils et que l'écosystème est énorme, ça évolue aussi très vite. Il y a des projets qui sont qui pop, qui sont abandonnés petit à petit, et ça, c'est dur à suivre. Et je trouve que ça demande quand même beaucoup de travail finalement pour suivre cet écosystème-là. Donc, si on peut mutualiser ce truc-là, c'est quand même pas mal dans une boîte ou à plusieurs boîtes, parce que sinon, on s'y perd vite. Et le gros point noir, le truc que Kubernetes n'arrive pas vraiment à gérer, que les conteneurs de base n'arrivent pas vraiment à gérer, c'est ce qu'on appelle les applications stateful, les applications à état. En gros, les applications qui gèrent de la donnée. Un exemple tout bête, une base de données. C'est une application qui gère de la donnée. Eh bien, ce genre de choses, c'est difficile. Il y en a qui ne le font pas, hein. Il y en a qui le font, mais c'est difficile à mettre dans un orchestrateur parce que Kubernetes n'est pas vraiment pensé pour ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec, avec ça?
Alors, c'est moi qui ai mis le point, donc je vais. Ouais, c'est que à la base, c'est quand même vraiment fait pour faire du stateless, donc des applications sans état, donc des serveurs web, etc. Donc là, ça marche plutôt bien. Effectivement, le stateful, jusqu'à il y a encore pas très longtemps, je pense que les gens mettent toute leur base de données, par exemple, quand ils utilisent du cloud, ils utilisent le service de database managé parce qu'ils n'avaient pas forcément confiance de mettre ça dans Kubernetes. Un peu compliqué. Maintenant, quand même, les choses ont beaucoup évolué. Les stateful sets amènent des solutions pour gérer les applications stateful. Il y a les opérateurs aussi qui arrivent. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même plus mature. Je pense qu'il y a moyen de faire tourner des choses intéressantes. Pour du stockage, par exemple, il y a des outils qui permettent d'utiliser SF, genre Rook, etc. Donc, il y a quand même vraiment... ça a bien bougé. Donc, je pense qu'aujourd'hui, ça devient crédible. Mais encore une fois, ça devient... Il faut au prix d'une certaine complexité.
Je vais tempérer un petit peu là-dessus. C'est pas parce que on peut déployer des applications stateful dans Kubernetes maintenant que c'est une bonne idée. Parce que on va quand même rappeler que toute l'histoire des conteneurs, c'est aussi pour apporter de la haute disponibilité. Une application stateful, c'est le meilleur moyen pour que votre application tombe en panne à un moment donné. Et si vous voulez creuser un petit peu au-delà du stateful stateless, c'est les 12 factors. C'est les 12 facteurs pour que votre application reste bien en haute disponibilité. J'en parle très souvent, je tanne assez souvent, mais regardez ça avant de commencer votre projet, parce que c'est la seule garantie pour que votre application tourne bien, quelles que soient les conditions. Alors, c'est pas parce que vous utiliserez les 12 facteurs que votre application sera à haute disponibilité, mais ça sera plus facile de la mettre dans un contexte entre guillemets cloud ready. Le fait que votre session soit pas stockée au niveau du serveur d'application. Vous allez pouvoir mettre deux serveurs d'application avec un load balancer devant, et le load balancer, il peut être très bête, envoyer un coup à gauche, un coup à droite, ça va marcher. Vos fichiers sont pas stockés en local, donc si jamais l'hyperviseur sur lequel tourne votre service crame, bah, c'est pas grave, on le redémarre ailleurs. Si l'endroit où est stocké le fichier CRAM, bah, c'est pas grave parce que vous avez de la réplication qui est mise en place. Et quand je dis stocké, c'est faites de l'object storage parce que comme ça, vous serez sûr que vous allez pouvoir étendre à l'infini et que ça peut cramer.
Ouais, mais la question, c'est l'object storage, est-ce que tu le mets dans Kubernetes ou pas? Parce que la promesse de vraiment savoir faire du stateful, c'est par exemple ça.
Ouais, bah je propose qu'on ne réponde pas à cette question et qu'on passe aux distributions de Kubernetes. Je vois le temps qui file. Du coup, Kubernetes, comme on a dit, c'est quelque chose d'assez intéressant, mais il manque quand même pas mal de choses. Et il y a des gens qui se sont mis à sortir ce qu'on appelle des distributions comme Linux, donc des Kubernetes un peu sous stéroïdes. Je vais commencer par parler d'OpenShift, parce que comme vous l'aurez compris, moi je viens d'OpenShift avant d'être arrivé sur Kubernetes. Et donc OpenShift, c'est une version Kubernetes fait par Red Hat. Il faut savoir qu'à l'origine, OpenShift, ça ne se basait pas sur Kubernetes, et pour la version 3 d'OpenShift, Red Hat a fait un shift complet, et ils sont passés sur Kubernetes, et c'est pour ça que Red Hat est l'un des plus gros contributeurs à justement Kubernetes. Et OpenShift, c'est en gros Kubernetes pour les développeurs. C'est ce qu'ils promettent. Ils nous promettent un pseudo-pass. En gros, OpenShift arrive avec plein de trucs en plus sur Kubernetes, comme une sécurité accrue. On ne peut pas faire tourner, par exemple, de conteneurs en mode route, ça c'est pas possible. Donc Kubernetes, il y a ce qu'on appelle les namespaces, donc des endroits où on va mettre nos conteneurs et autres. Et dans OpenShift, c'est ce qu'on appelle des projets qui sont encore plus isolés. Je ne sais pas comment ils ont fait ça, mais en tout cas, c'est ce qu'ils promettent. Et surtout, on a des objets supplémentaires comme les objets réseau pour gérer les URL et autres assez facilement, beaucoup plus en tout cas qu'avec Kubernetes, je trouve. Et l'un des trucs qui est pour moi le top chez OpenShift, c'est la gestion des builds de conteneurs, puisque OpenShift peut s'occuper pour nous de builder les conteneurs et de les héberger directement dans l'agrégat, et donc de ne pas aller appeler un registre de conteneurs externe. Donc voilà pour OpenShift, je pense que vous en saurez beaucoup. Il faut savoir que la version libre d'OpenShift s'appelle OKD, et je vous mets le lien en description. Et on a d'autres distributions. Qui veut nous parler des autres distributions ?
Moi, je peux en parler de manière un peu générale. Je pense que la distribution, ce qu'elle apporte, c'est, on a vu qu'il y a un écosystème super, super large. Je pense que l'idée de la distribution, c'est de faire confiance à des gens qui ont choisi quelque chose, une solution cohérente en prenant les modules qui sont les plus adaptés et qui, du coup, nous réduisent un petit peu le choix et la complexité et nous permettent d'installer Kubernetes de manière plus simple. Voilà. Notamment celle de Rancher. C'est vrai que c'est une chouette distribution mise à disposition et qui permet de démarrer avec, je pense, des choix et des configurations qui sont plus appropriées que ce qu'on pourrait faire par soi-même au départ en from scratch.
Nicolas, tu veux apporter une précision sur Rancher ?
Ouais, moi j'ai testé mes premières vraies installations de Kubernetes ont été faites via Rancher et j'ai trouvé que c'était très intéressant comme produit quand on veut pouvoir déployer du Rancher assez facilement, assez rapidement, parce que c'est multi-provider. On peut déployer sur de l'AWS, du GKE et ainsi de suite. On peut le déployer sur du on-premise a priori. C'est vraiment tout managé, c'est vraiment super bien foutu. Donc si vous voulez déployer des clusters de dev et que vous voulez pas trop vous embêter avec la gestion d'un cluster, regardez Rancher, c'est vraiment super intéressant. Et ce qui est assez marrant, c'est que c'était un des acteurs de l'orchestration de conteneurs avant que Kubernetes arrive et qu'ils ont très rapidement pris le virage. Et finalement, c'est même assez marrant parce que c'est eux qui ont développé la solution K3S dont l'un de vous va peut-être nous parler maintenant.
Je précise juste sur Rancher un truc. Rancher est une solution aussi qui permet de déployer plusieurs agrégats. C'est-à-dire qu'un agrégat Rancher vous permet de déployer d'autres agrégats. Donc vous pouvez superviser toute votre infrastructure de Kubernetes avec Rancher. Et donc faire des clics pour déployer votre Rancher.
Et je peux parler un peu de K3S peut-être. C'est fait par Rancher en effet. Et son intérêt, c'est que ça se présente comme un simple binaire qui package l'ensemble des composants de Kubernetes. Donc facile à déployer, beaucoup plus facile que le Kubernetes initial, on va dire. Et une autre chose intéressante, c'est qu'on ne l'a pas mentionné, mais Kubernetes utilise etcd pour son stockage. Donc qui est une base de données clé-valeur distribuée, c'est-à-dire on peut la déployer sur plusieurs nœuds, etc. etc. Et Rancher permet d'utiliser des bases de données SQL, par exemple SQLite, Postgre, ou MariaDB, ou des choses comme ça. Et c'est quelque chose qu'on verra de plus en plus, je pense, dans le monde Kubernetes, c'est-à-dire remplacer les TCD par d'autres composants plus simples à gérer, ou plus scalables, ou des choses comme ça. C'est des choses qu'on commence à voir. Et là, Rancher le fait de façon, enfin, Rancher, non, K3S, désolé, le fait de façon très intéressante parce que juste un binaire et une base SQLite embarquée permet de démarrer un Kubernetes, ce qui est très bien pour tester, mais ça peut être aussi être utile pour d'autres use cases, pour éviter d'avoir à gérer de l'etcd.
Ouais, on peut parler justement des objets connectés ou des petits serveurs ARM, par exemple, je vois que ça tourne sur ARM. Il y a plein d'autres cas justement pour des petites machines. Ou pour l'embarquer, ça pourrait être assez efficace, je pense.
Ça, pour moi, ça a été fait vraiment en visée de l'embarquer, en fait.
Je vous propose qu'on passe aux autres conteneurs, aux autres orchestrateurs. On est déjà à l'heure. et je sens que cette émission va durer longtemps. Donc, est-ce qu'on pourrait parler des autres orchestrateurs, et notamment d'un qui fait beaucoup parler de lui, qui est Nomad?
Là, ça va plus être ma partie, parce que du coup, j'en opère très régulièrement, quasiment au quotidien. J'en mange au petit déjeuner. Je crois que c'est Mathieu qui disait que Kubernetes était sorti assez rapidement, donc j'ai regardé, c'est sorti le 7 juin 2015, et il y a le premier commit de Nomad, c'était le 1er juin 2015. Alors, ils ont bien joué pour faire un petit commit avant, mais en réalité, il n'y avait rien dedans. Donc, c'est sorti le 28 septembre 2015. Et la petite particularité par rapport à Kubernetes, c'est que Nomad va s'occuper juste de la partie orchestration. Et il peut orchestrer plusieurs types de workloads. Donc là, ce soir, on parle principalement de conteneurs, mais il sait aussi lancer des binaires, des VM et ainsi de suite. Et l'autre particularité de Nomad, c'est que comme tous les outils d'HashiCorp, il va se concentrer sur une petite partie qui est juste l'orchestration du workload. Donc le binaire Nomad sert à la fois en client, en serveur, et ainsi de suite. Comme tous les outils d'HashiCorp, ça permet de monter progressivement en gamme. Donc on peut installer le serveur Nomad sur un serveur, sur un poste de développement même. On peut avoir un environnement de développement Nomad sur sa machine et on peut monter en gamme très progressivement. Et là où dans Kubernetes, quand on tire la plotte, on se retrouve à installer énormément de trucs, on peut faire la même chose avec toute la stack HashiCorp, parce que pour moi, c'est quand on parle de Nomad, on peut pas utiliser Nomad tout seul. Il faut au minimum mettre Consul, par exemple. Vous allez utiliser Consul et Nomad en même temps. Et en fait, vous allez monter progressivement en gamme sur les fonctionnalités. Donc, vous allez l'installer tout seul, après vous allez l'installer en cluster, et après vous allez mettre de la discovery automatique, après vous allez vouloir mettre du TLS, après vous allez mettre des ACL, et en fait, vous allez monter progressivement dans la complexité en fonction des besoins de votre projet. Et je trouve que ça correspond bien aussi à la philosophie Lean Startup, où finalement, on commence avec des trucs très très simples, mais ça fonctionne, on a un MVP qui est vendable, et en fonction de du projet qui va grandir, de la société qui va grandir, on va pouvoir monter en gamme progressivement en fonction des besoins de l'entreprise, de l'infrastructure. Mathieu, tu connais un petit peu Nomad
pas trop.
Orchestrateur.
En tant qu'orchestrateur, j'ai vu déjà des talks à propos de Nomad. Bon, j'ai un peu regardé la doc, etc., mais j'ai pas vraiment eu l'occasion de le tester personnellement, mais j'ai beaucoup travaillé avec Consul et Vault. Donc, c'est des briques que je connais assez bien. Moi, j'ai toujours aimé les outils HashiCorp qui sont généralement bien pensés, qui se composent en effet entre eux. Donc, qui s'intègrent, on va dire, entre eux. Et nous, d'ailleurs, on utilise Kubernetes, mais on utilise aussi beaucoup Consul et Vault parce que ça s'intègre très bien avec Kubernetes, notamment Consul, hein, qu'on utilise pour toute la partie DNS. Donc à chaque fois qu'on tape quelque chose qui est en dehors de Kubernetes, en fait, on résolve dans Consul, hein, l'adresse. Nomad en lui-même, non, je connais pas trop, donc c'est vrai que je peux pas trop en parler. Mais j'aimerais bien qu'il y ait des concurrents à Kubernetes, parce que je sais plus qui l'a dit tout à l'heure, mais c'est vrai que Kubernetes a quand même asphyxié l'écosystème conteneur, DevOps, etc. Et c'est un peu dommage. C'est toujours un peu dommage, donc c'est bien de voir des alternatives.
Moi, j'ai jamais utilisé Nomad. C'est aussi un truc qui m'intéresserait, mais pour l'instant, j'ai jamais eu le temps de m'y pencher dessus. Et j'ai pas encore eu de cas d'usage, a priori, sur Nomad. Est-ce que on a d'autres alternatives, finalement? Parce que Nomad, c'est le challenger, mais est-ce qu'il y a d'autres alternatives?
Ben, il y avait, donc, pour avoir un petit peu vu ça au début, donc la solution Docker qui s'appelait Swarm, qui au début était un produit à part. Puis finalement, Docker l'avait intégré à son, entre guillemets, serveur client. C'est un peu compliqué avec Docker. Et à l'époque, alors ils l'ont peut-être sorti, une des problématiques, c'est qu'ils l'ont peut-être sorti un peu vite en 2015. Du coup, la solution manquait peut-être de maturité et ça a peut-être déçu des gens. Une des forces, c'est peut-être un peu comme Nomad, c'est que c'était plus contraint, c'est-à-dire ils cherchaient à gérer moins de choses que Kubernetes, en s'occupant voilà, plus de la partie, comme l'a dit Nicolas, plus de la partie orchestration. Par contre, la force à l'époque, c'est que l'installation, c'était deux lignes de commande, c'est-à-dire un init sur le master, et un init sous, et un join pour les nœuds workers entre guillemets. Et en fait toute la, on va dire toute la mise en place de, du TLS entre les nodes, de la base de données partagées entre guillemets, ou le clé valeur partagée, se faisait en fait complètement, toute cette intelligence là était, était complètement masquée. Cette difficulté-là était complètement masquée, et moi, c'est ce qui me plaisait beaucoup. Ils avaient un peu la philosophie de, d'apporter ce que Docker a apporté pour les conteneurs, les rendre un petit peu utilisables par tout le monde, ou du moins par le commun des mortels. Bah, ils ont essayé de faire un peu la même chose sur l'orchestrateur. Malheureusement, voilà, ça n'a pas... Les gens n'ont pas forcément adhéré. Il y a eu cette, peut-être cette sortie un peu hâtive qui, voilà, avec un Kubernetes en face qui était jugé plus mature pour la production. Et voilà, c'est malheureusement la solution a moins percé, a moins, moins eu de succès.
Et c'est vraiment dommage parce que tu veux dire. Vas-y, Christophe. En fait, le, pour moi, ce qui m'avait vraiment marqué et que j'ai trouvé super intéressant dans, dans le Docker Swarm, c'est que on avait le Docker Compose qui était le petit orchestrateur du pauvre, mais qui fonctionnait pour démarrer un environnement fonctionnel sur le poste du développeur et éventuellement sur des petits serveurs de prod. Mais ce qui était vraiment intéressant avec Swarm, c'est que les fichiers de configuration étaient plutôt compatibles avec le Docker Compose. Donc quand on se débrouillait bien, on pouvait avoir le Docker Compose sur le poste du développeur, le Docker Compose qui instanciait tout ce qu'il fallait sur la partie Swarm pour le serveur de, d'intégration, le serveur de staging, etc. Et avec des fichiers Compose qui permettaient de compléter le, les autres fichiers. Et finalement, on pouvait empiler les fonctionnalités pour rajouter de la sécurité, changer des mots de passe, des choses comme ça. Et j'ai trouvé que c'était très intéressant pour le cycle de vie global des conteneurs. Et je retrouve un petit peu moins ça dans, dans les autres solutions.
Ouais, c'était, je pense, voilà, un peu mieux intégré avec l'existant qu'il y avait chez Docker. Donc du coup, ça limitait peut-être le nouvel apprentissage par rapport au YAML file à apprendre pour Kubernetes. Un des autres aspects qui était intéressant au début, c'est qu'il y avait le, la gestion quand même d'une ségrégation réseau, peut-être assez basique, mais on pouvait quand même ségréguer des containers de, en faisant des, entre guillemets, des différents silos, ce qui au début n'était pas forcément le cas trop sur Kubernetes, ou du moins sans, voilà, sans ajouter le nombre de plugins, etc.
Mais est-ce que Swarm, justement, c'était pas aussi intrinsèquement lié à Docker et le fait qu'à un moment donné, il y a eu la guerre des conteneurs, Docker était un peu challengé, est-ce que ça n'a pas donné un coup à Swarm? Puisque je pense qu'il ne peut pas s'intégrer avec d'autres gestionnaires de conteneurs, il me semble.
Alors, à l'époque, assez vieux, à l'époque, globalement, quand même, les conteneurs, c'était... Ouais, je vais dire peut-être une bêtise, mais il y avait quand même beaucoup, on voyait beaucoup Docker. Et oui, je pense qu'ils ont développé quelque chose pour leur solution à eux. Ils n'ont pas forcément... Enfin, c'était un petit peu, voilà, et c'est vrai qu'à ce moment-là, ils étaient critiqués justement en disant que c'était un peu tout lié, et d'où l'initiative de séparer en différents projets, etc. Oui, c'était peut-être une des facettes peut-être un peu négatives.
Bah, puisqu'on est finalement dans le cimetière des orchestrateurs, on va appeler cette partie-là comme ça, hein. Est-ce que quelqu'un a essayé Mesos, et est-ce que c'est encore vivant?
Je l'ai utilisé en 2015.
Pas l'impression.
Quand j'étais en stage de fin d'études, j'ai utilisé un Mesos et Marathon. Donc Mesos, c'est un gestionnaire de ressources. Hein. Il n'y a aucun rapport avec les conteneurs pour Mesos pur. C'était la grande mode du big data hein, quand Mesos est apparu. Ça gère des ressources, donc ça gère de la CPU et le RAM, la RAM d'un cluster en gros, d'un cluster de machines. Et ensuite, il y a des frameworks qui se mettent au-dessus pour allouer des ressources. Et donc, il y avait des gens qui faisaient tourner du Storm, du Spark, voilà, le truc un peu lié au big data là-dessus. Et il y a des gens qui ont sorti, notamment Marathon, qui était donc un framework pour faire tourner des conteneurs, mais pas que. On pouvait également lancer que des process, un peu comme dans Nomad, sur Mesos. Mais j'ai enfin ça date, hein, c'était en 2015, moi j'étais stagiaire donc j'avais pas l'expérience, moi ça, je trouvais ça magique hein, à l'époque, mais bon j'avais pas de recul, c'était, voilà, pour moi c'était la révolution, j'y croyais à mort, hein, à l'époque Mesos Marathon, j'étais à fond, mais finalement c'est mort, hein. Récemment je crois que Mesos a encore eu un truc, ils sont même plus dans la fondation Apache je crois, enfin bref, c'est plus vraiment, c'est plus utilisé aujourd'hui, malheureusement peut-être.
Ouais, en fait, Docker Swarm, enfin, je pense que c'est encore toujours un peu vivant, parce qu'il y a Docker Enterprise, et donc c'est pas complètement mort, il y a encore des, je crois, des gros clients qui l'utilisent, notamment français. Marathon, moi j'ai aussi un petit peu joué en 2015 aussi par là, et c'est vrai que c'est ambitieux, et effectivement, c'est pas que du container, on pouvait, je pense, aller encore plus loin, mais bon, bah, ça pas pareil, ça. Je pense que Kubernetes, il y a eu un tel effort. Aussi côté marketing, ben ces autres solutions-là, elles ont été un peu éclipsées et c'est dommage.
C'est ça.
Finalement, est-ce qu'on a besoin d'autres solutions ? Parce que entre Kubernetes et ses distributions, on l'a vu, K3S qui simplifie quand même pas mal les choses, et Nomad, est-ce qu'on a besoin encore de plein d'autres solutions ? Je me pose la question, où est-ce qu'on va voir émerger d'autres trucs ? Ça, c'est. On y réfléchira peut-être une autre fois. Et je pense qu'il est temps de clôturer cette émission déjà très très longue. Et avant de vous laisser le mot de la fin, je vais rappeler à nos chers auditeurs et auditrices qu'ils peuvent nous rejoindre et discuter avec nous sur la communauté des compagnons du DevOps, qui est un forum où on discute beaucoup de Kubernetes quand même, osons le dire, parce qu'il y a une section dédiée à Kubernetes où il y a plein de questions dedans. Donc rejoignez-nous et venez discuter avec nous, ça nous fera plaisir, vous ferez partie des compagnons si vous ne l'êtes pas déjà. Et je vais vous laisser le mot de la fin. Et je vais commencer par Mathieu. Quel est ton mot de la fin ?
Alors, mon mot de la fin, c'est que moi, même si j'ai envie de croire à Nomad, j'ai quand même l'impression que Kubernetes est en train de gagner et en train de devenir un standard sur lequel les gens vont construire. Bon, je pense qu'on va avoir des offres de plus en plus évoluées, des abstractions au-dessus de Kubernetes, où vous aurez de moins en moins de choses à gérer. Pour moi, j'aimerais quand même voir... Des alternatives, donc on verra, mais j'ai l'impression quand même qu'on se dirige vers ça pour toutes les raisons qu'on a dit, et que plus le temps passera, plus on aura des abstractions au-dessus de Kubernetes, notamment au-dessus des nœuds ou des choses comme ça. Mais ça, on peut pas le dire en avance. Mesos, à l'époque, je me rappelle, tout le monde disait que ça serait l'avenir. C'était utilisé par Twitter notamment, et finalement c'est mort. Tout le monde disait ça, OpenStack disait, finalement OpenStack, est-ce que ça a pris, oui ou non, et non, parce qu'il n'y a pas tant de cloud providers qui l'utilisent, donc on peut pas prédire l'avenir, mais je pense que ce qui est important quand même de retenir, c'est les concepts de Kubernetes. API déclarative, plus boucle de réconciliation pour faire converger l'état du monde, ça c'est une bonne façon de faire de l'infrastructure, avec l'API bien sûr pour interagir avec le système. Ce concept-là est important. On le retrouve à plein d'endroits aujourd'hui et c'est ça qu'il faut garder en tête, je pense. C'est vraiment ce concept de déclaration d'état et de réconciliation.
Eh ben, sacré mot de la fin, dis donc. René, est-ce que tu as un mot de la fin à nous partager ?
Ce qu'on peut dire, c'est que on l'a vu, hein, y a une grosse hype sur Kubernetes. Les gens se sont précipités là-dessus. Donc du coup, sur ce sujet-là, je pense que j'ai un peu l'impression que la messe est dite, mais comme Mathieu, j'espère qu'il y aura quand même d'autres alternatives. On n'est pas à l'abri que quelqu'un sorte un truc génialissime dans quelques temps. Je pense qu'il faut malgré tout regarder parfois, alors sur d'autres sujets, mais voilà, les alternatives et pas toujours suivre le standard de facto. Il y a des bonnes idées à prendre aussi sur d'autres solutions. Et voilà, ce sera mon mot de la fin.
Eh bien, Nicolas, je te laisse clôturer royalement cet épisode.
Je vais apporter une petite note optimiste. C'est moi, j'aime bien la diversité et j'ai toujours été le mouton noir qui utilisait des technos un petit peu émergentes et où on jetait des cailloux aux gens. Donc, j'ai fait partie des premiers utilisateurs de Linux. Et ben, maintenant, regardez ce que ça donne. J'ai fait partie des premiers utilisateurs à faire du Ruby en France. Regardez un petit peu ce qui se fait sur, je crois que c'est Doctissimo qui est en train d'exploser un petit peu en ce moment en faisant du Ruby on Rails. Donc,
Doctolib.
Doctolib, merci. Donc, si vous êtes obligé de faire du Kubernetes, bon, bah, je suis vraiment désolé pour vous, mais sinon, regardez Nomad, c'est une excellente alternative et vous verrez, ça va égayer vos journées.
Eh bien, merci et à bientôt.
Merci à vous.
Merci d'avoir écouté Radio DevOps. N'oublie pas de noter l'épisode. Plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager, ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des Compagnons du DevOps. À bientôt! La balado-diffusion des Compagnons du DevOps est produite par l'Hydra.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.